Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio du Café des Sports de Radio Foot International, votre rendez-vous hebdomadaire avec un de nos invités. Il est là aujourd'hui, c'est un des rescapés de cette aventure qu'est le Café des Sports. Bonjour Rémi Ngono.
Ah bonjour Annie, toujours en poste, jamais je ne vire mon équipe et jamais on ne me ramène de force.
Non mais des fois on modifie un peu l'équipe pour des raisons X ou Y. N'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, mais vous pouvez aussi nous regarder aujourd'hui, comme tous les vendredis, en Facebook Live. Rémi n'est pas venu seul, je vous rassure. Il y a d'autres adversaires dans les débats du jour. Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec nous.
C'est un plaisir.
Ainsi que David Lortolari. Bonjour David.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci de compléter le nombre des invités autour de cette table aujourd'hui. Alors, nous évoquerons aujourd'hui le grand retour des sélections en Europe grâce à la Ligue des Nations. Les Bleus sélectionnés par Didier Deschamps sont-ils pleins de renouveau avec le report de l'Euro 2021? Sont-ils en plein renouveau? La Suède, premier adversaire, une belle opportunité pour savoir où en sont les champions du monde car c'est un os pour cette équipe des Bleus, l'équipe suédoise. Un match sans vainqueur hier à Stuttgart entre Allemands et Espagnols. Un match nul ou pas? Quels sont les points faibles des récents champions du monde en mode rajeunissement? Covid, ton univers impitoyable, les joueurs de foot ne sont pas immunisés contre le coronavirus et leur contagion met en péril leur club et les championnats. Le PSG, nouvelle victime, mais la réglementation pourrait bien changer. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Et nous commençons avec cette nouvelle qui vient de tomber et ceux qui suivent ce qui se passe du côté de l'Espagne comprendront. C'est Queda, et oui, Messi reste barcelonais pour la saison qui vient. Il l'a annoncé lui-même, c'était dans une vidéo divulguée il y a quelques minutes à peine sur les réseaux sociaux et par le site Goal. C'était en exclusivité. Messi dit notamment « Je vais continuer au club ». Parce qu'on m'a dit que la seule façon de partir était de payer la clause, ce qui est à mon sens impossible, ou à son sens du moins. Sinon, il y avait jugement et je ne voulais pas avoir un procès avec le club qui m'a tout donné, le club de ma vie. Ma vie est à Barcelone, j'ai grandi ici, il m'a tout donné, j'ai tout donné. Un procès contre le club, je ne ferai jamais ça, donc je le répète, je reste. Gilles Verdez, est-ce que c'est, on peut se dire tout ça pour ça, on pense à la une de nos amis de Charlie Hebdo cette semaine, mais tout ce feuilleton depuis à peu près une dizaine de jours, c'était depuis le 25 août, et finalement cet épilogue en queue de poisson.
Je suis très déçu par Lionel Messi que j'idolâtre, c'est pas digne de lui. Quand Messi annonce qu'il part, il part. Vous pouvez pas faire cette volte-face comme ça en quelques jours, tout ça pour des raisons financières, il le reconnaît, c'est qu'il avait peur de partir unilatéralement, d'être attaqué et de devoir payer dans un an, trois ans, dix ans, 700 millions que Barcelone gagne le procès, puisque les avocats de Messi ont été mauvais tout au long de l'affaire. Donc il a peur, il se rétracte, il reste. Mais non, c'est pas bien, quand on est Messi, on assume ce qu'on fait, voilà.
Rémi, est-ce que vous êtes surpris par la fin de ce feuilleton?
Je suis d'abord surpris par l'honnêteté de Gilles. Si ça aurait été Xavier Barré, il aurait dit que Messi mérite d'aller au paradis parce qu'il aime beaucoup le Barça. Ça montre justement que Messi n'aime pas aussi le Barça comme on peut le croire. Lui qui quand même a été biberonné dans ce club, lui qui a été soigné.
Il le dit justement. Il dit ils m'ont tout donné et c'est pour ça que je ne vais pas leur faire un procès.
Il aurait négocié au début. Ils auraient fait cela, comme on dit, le linge sale.
Apparemment, ils pensaient qu'ils pouvaient partir sans rien payer.
Voilà, c'est ce qu'ils croyaient. Maintenant que, comme Gilles
il a été mal conseillé,
ils se rendent compte que il y a de l'argent à payer. Ils se disent, moi, je ne peux pas payer dans la mesure où, rappelez-vous quand même que depuis pratiquement 2012, Lionel Messi a une augmentation de salaire chaque année. Et rappelez-vous de tout ce que ça peut coûter au Barça. Et que chaque fois, il dit toujours, je voudrais partir pour qu'on prolonge le contrat, on prolonge le contrat et on augmente le salaire parce que il faut quand même se dire que c'est Cristiano Ronaldo qui touchait plus que Messi aujourd'hui. Messi a dit, il faut d'abord que je sois au-dessus.
Non, mais
il a réussi à aller et maintenant? Non, mais Rémi, se retrouve devant un problème.
La question, c'est ça, c'est est-ce que vous êtes surpris par le revirement finalement? Parce que je on imaginait un peu tous, comme Gilles, que ce joueur-là qui dit tout d'un coup, du jour au lendemain, il allait partir.
Je vous jure, sur ma page Facebook Remington officielle, j'ai dit il ne partira pas. C'est un acteur de cinéma. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. Vous savez que même avec l'équipe d'Argentine, il a dit je pars, après je ne pars pas. Donc, chaque fois, c'est des volte-face, il prend une décision, il n'a pas de maturité Messi. Et de surcroît aujourd'hui, lorsqu'on me dit que est-ce que je suis surpris, je ne suis surpris que d'une seule chose, qu'il vienne encore dire derrière que lui, il aime tellement ce club qu'il ne voudrait pas faire un procès. C'est le club qui allait lui faire un procès et c'est la Ligue qui lui a dit si tu pars, tu n'auras pas de possibilité de pouvoir partir.
David Lortolari.
Annie, avec tout ce qui vient d'être dit, les faits, les informations comme ça, au fil des années, c'est un feuilleton qui est pénible. Et je suis content, moi je suis heureux que ça s'arrête, ce feuilleton-là, parce que bien sûr, c'est du succès dans les médias, on hésite, on ne sait pas, on fait des hypothèses, il pourrait aller à Manchester City, même en Allemagne, vu d'Allemagne, les Bavarois et les supporters étaient un peu alléchés, ils se disaient, tiens, il y a peut-être un moyen, il y a peut-être une occasion. Non, on arrête le feuilleton, c'est très bien. Je pense que Messi est perdant de toute façon, sur le plan de la communication, sur le plan de son image, peut-être pas auprès des jeunes amateurs de football qui vont continuer de revêtir son maillot, mais c'est une histoire que je trouve pénible et je suis content que ça se termine.
Il a perdu de son aura peut-être un peu.
Oui, alors je pense pas que ce soit terminé. C'est-à-dire que la dernière année va être, hélas, ou tant mieux, encore plus sulfureuse. Quand même pour se coucher comme ça. Mais si forcément il a obtenu des garanties, sinon il serait allé au bras de fer.
Par exemple.
D'une manière ou d'une autre. Bah, par exemple,
le départ du président Bartomeu, qui avait dit s'il reste, je pars.
Possible qu'en tout cas, Bartomeu lui ait dit, on essaiera de renouveler considérablement, le staff du FC Barcelone, au niveau présidentiel.
Puisque Thomas a l'air de commencer à faire, d'ailleurs.
Exactement. Possible aussi que Messi ait dit, je reste, mais Suarez, je le veux à mes côtés, parce qu'on sait qu'ils sont quasiment inséparables. Suarez est en égo. Situation avancée avec la Juventus, mais possible que Messi ait obtenu ça. Possible qu'il ait obtenu quand même de Koeman un peu plus de reconnaissance que l'arrogance néerlandaise de la première fois. Donc cette année-là, elle va être intéressante, parce que quel Messi? Et puis toute l'année, où va-t-il aller? Est-ce que Manchester City va le voir libre dans un an? Vous rendez compte?
Ouais,
Messi
c'est sûr
libre.
Que le feuilleton n'est pas terminé.
Ah, mais non.
Gilles, ce que je ne voudrais pas qu'on dise, c'est que Messi a obtenu des garanties.
Ah bah c'est
lorsque
sûr.
Georges Messi arrive à Barcelone, et même quand il ressort de l'entrevue, il dit, c'est pratiquement impossible, je ne pense pas qu'il va rester. Il le dit, il affirme. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu de compromis.
Ça, c'est de la négo, Rémi.
Oui, la réalité, oui. C'est quoi? C'est que,
Rémi,
effectivement.
Ça a forcément négocié.
Bah oui.
Effectivement, Bartomeu a dit, moi, de toutes les façons, je ne peux pas céder, puisque il voulait quand même que on puisse aller à 253, voire 243 millions d'euros pour qu'on puisse libérer Messi. Or, le président a dit, je n'enlève pas un copec, parce que justement, il y va aussi de sa dignité, de son honorabilité. Donc, aujourd'hui, c'est un Messi qui est là. Par force, c'est quelqu'un qui est là. Et il y a un proverbe africain qui dit « On ne force pas un âne à boire de l'eau quand il n'a pas soif.
» Bon, alors comparer Messi à un âne, c'est la question qu'on se posera évidemment dans les prochains Radio Foot International. On reviendra sur cette nouvelle, mais au moins vous en aurez eu la primeur, chers auditeurs du Café des Sports. Gilles, vous voulez encore ajouter quelque chose?
Ça va être intéressant aussi de voir l'évolution juridique, parce que Messi a quand même été trompé par ses avocats, hein, qui se sont engagés en disant, grâce au Covid, à l'exception Covid, tu peux partir libre, la clause ne s'applique plus. Puis après, il a dit, la troisième année de ce contrat-là, je peux être libre. Donc les avocats de Messi, c'est invraisemblable, tant d'erreurs. Ou alors, c'est un complot contre Messi, je n'y crois pas. Mais là, vraiment, les avocats de Messi l'ont entraîné dans un échec terrible. Donc dans le clan Messi, vous allez voir, dans les semaines à venir, ça va bouger.
Oui, il y aura sûrement d'autres informations, plus d'explications, surtout sur les concessions ou sur les arrangements.
Absolument.
Autour du cas Messi. En tout cas, Messi, Cequeda et le FC Barcelone, les Blaugrana, auront encore leur héros la saison prochaine.
Leur héros de quoi? Pour les 8-2,
attendez.
6 ballons d'or. 6 ballons d'or.
Oui, pour lui, c'est individuel. Pour l'instant, ce qu'on retiendra, c'est 8-2.
Combien de titres
avec
Barcelone?
Voilà,
combien
c'est comme ça.
On verra.
Attendez, je peux vous dire,
Rémi,
comme moi.
Rémi, on y reviendra, s'il vous plaît. On a plein de sujets aujourd'hui, on reviendra. Mais la plus grande nouvelle, c'était donc que Lionel Messi a annoncé ses dernières minutes et via une vidéo. Hein, on le voit d'ailleurs en short rouge
chez lui
vraisemblablement, avec un journaliste sur deux chaises très simples en train d'annoncer qu'effectivement c'est Cequeda à Barcelone. Allez, on continue.
parti, premier poteau. Et c'est au fond grâce au premier but en bleu de Corentin Tolisso, le joueur du Bayern Munich. Et les Bleus mènent 1-0. Avec Léo Dubois qui reprend ce ballon deux fois. Il ne peut pas frapper parce qu'il s'est excentré. Alors il va centrer. Oh, et il va centrer pour Antoine Griezmann. Le voilà, passeur décisif Dubois. Et le voilà, le but attendu d'Antoine Griezmann. Et les Bleus, après une petite demi-heure de jeu, mènent 2-0 ce soir à Tirana.
10 mois d'attente, 293 jours exactement, une éternité hein, pour les supporters et les équipes nationales. Mais ces deux buts que vous venez d'entendre, eh bien, ce sont les derniers inscrits par les Bleus. Il date du 19 novembre 2019, alors c'était dans le monde d'avant, si on a envie d'être un peu taquin. C'était celui en tout cas où vous le voyez, pour ceux qui regardent les images via Facebook Live, eh bien les tribunes étaient encore pleines de supporters. Alors c'était notamment ça le monde d'avant, celui où le Covid-19 ne gâchait pas la fête populaire qui entoure ou qui entourait le football. La Ligue des Nations en Europe, c'est d'ailleurs le seul continent à avoir repris des matchs internationaux. Nationaux, eh bien, c'est cette compétition, donc la Ligue des Nations a repris et l'équipe de France jouera en Suède. Le groupe convoqué par Didier Deschamps comporte évidemment l'essentiel des cadres, mais quand même, il y a des blessés, il y a des malades, il y a aussi des joueurs fatigués et donc de jeunes pousses et de jeunes surtout prometteurs sont arrivés dans le groupe. Ces jeunes, ils peuvent s'appeler eh bien Camavinga ou Pamecano, bientôt ça aurait pu être Aouar. Il y a Rabiot, Maignan. Est-ce qu'ils sont susceptibles, selon vous, allez Rémi, est-ce qu'ils sont susceptibles d'être là et c'est Keda aussi, eux. Est-ce qu'ils vont rester dans ce groupe, eux aussi? Ils sont appelés à y rester, pas forcément le prochain, la prochaine session, mais d'ici l'Euro.
Pas très sûr, parce que avec Didier Deschamps, on est déjà habitué à voir parfois certains qui viennent, qui disparaissent, mais quand même, il y a certains qui peuvent... avoir une place comme Upamecano, parce que non seulement il est jeune, mais on a quand même vu que au niveau de la défense actuellement de l'équipe de France, il faut vraiment actuellement remettre quelqu'un d'autre à côté peut-être de celui qu'on peut qualifier aujourd'hui comme le seul défenseur véritable de cette charnière. Donc je me dis que à côté de Varane, il peut faire beaucoup de choses. Donc moi,
on l'a vu avec l'équipe de Leipzig, hein, il joue à Leipzig.
Bon, mais maintenant, on ne peut pas dire également que les autres qui sont arrivés pourront avoir des possibilités de s'offrir une place, parce que il y en a beaucoup.
Pas forcément dans le 11 titulaire. Hein, je pensais au groupe des 23 en pensant à l'Euro.
Ah, vous savez, avec Didier Deschamps, je n'ai qu'un champ de qui est toujours à refaire. C'est un champ où on vous dit, bon, voilà tel qui va arriver et tel autre qui ne peut pas arriver parce que lui n'est pas en forme. Le cas de Rabiot, par exemple, peut nous le dire. Donc, aujourd'hui, c'est Didier Deschamps qui, lui seul, sait ce qu'il veut. Et d'autant plus que quand j'essaie de regarder aujourd'hui ce qu'il est en train de mettre en place. Du coup, je me dis, peut-être qu'il aura beaucoup plus besoin des milieux que les attaquants ou même les défenseurs, parce que maintenant il est en train de mettre en place un 3-5-2. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que il y a d'abord à voir la première partie, le premier match, ce qui va sortir, et là nous aurons à peu près en projection ce qui pourra arriver.
David Lortolari, c'est quand même l'occasion pour Didier Deschamps d'avoir des tests, on va dire grandeur nature.
Oui, avec la retenue pour nous dans nos analyses. Je dis ça à la lumière du match d'hier dont on va parler un moment après, qu'il y a des états de forme, qu'il y a des états de forme extrêmement différents collectivement, individuellement. Mais oui, je suis d'accord sur le fait que Rémi souligne un nom en premier comme celui d'Upamecano, parce que voilà quelqu'un qui peut s'imposer un peu de façon un peu comme ça massive. Il est talentueux, il comprend tout, il a de l'avance, il est précoce, il est bon, etc. Peut-être un talent offensif aussi en plus de celui-là. Et puis, c'est le moment de saisir sa chance, justement, si Didier Deschamps, parce que c'est lui qui va en décider, bien sûr, donne du temps de jeu. Parce que typiquement, il y a moyen de se faire sa place, d'autant plus que, encore une fois, on peut avoir des coéquipiers qui sont un peu éteints, qui sont un peu, qui baissent au bout d'une heure, etc. C'est le moment peut-être le plus propice pour des jeunes comme ça, pour trouver une place.
Gilles Verdez.
Moi, celui que j'attends, celui que je vois, je pense pas qu'il débutera, c'est Camavinga. Pour moi, lui, c'est l'avenir. Donc lui, je le vois s'inscrire dans une longue durée.
Pourtant, il y a du monde quand même en milieu de terrain en France.
Il y a du monde, mais il n'y a pas autant de talent que chez lui. Voilà, c'est le talent pur. Je revois Thierry Henry en 98, donc on voit la carrière qu'il a faite quand même. Donc voilà, je m'avance, mais Camavinga, je suis sûr. Rabiot, c'est intéressant, mais ça dépend vraiment de lui, et sur le terrain et en dehors. C'est un vrai test, donc c'est difficile
comment
de prédire.
Comment vous interprétez le fait que tout à coup Didier Deschamps les rappelait, alors que finalement on dit qu'il y a pas mal de monde. Alors Paul Pogba est retenu à cause de la pandémie.
Et oui.
Mais il y a quand même du
aussi,
monde.
Il y a plein. Oui, mais le problème c'est qu'on aura une succession de listes conjoncturelles, c'est-à-dire que avec le Covid, vous ne maîtrisez plus rien. Vous pouvez avoir un jour au moment de la liste 6 joueurs d'un club qui sont forfaits pour Deschamps, et donc il est obligé d'élargir au maximum. Il est obligé de voir le champ des possible, non pas se rétrécir, mais s'agrandir pour se prémunir contre toute éventualité. Et Rabiot, c'est dans ce cadre-là. C'est un très bon joueur, donc il a décidé de passer outre, de dire aussi « je suis Deschamps et j'appelle qui je veux ». Quelqu'un qui m'a titillé comme ça, sauf Benzema. Mais Rabiot m'a titillé, il m'a pas insulté, je le reprends. Je suis Deschamps, je fais ce que je veux. Donc il affirme son leadership comme ça. C'est très intelligemment joué de mon point de vue.
David Lortolari, on voit aussi que certains cadres sont là, mais on a quelques questions autour de certains de ces cadres, des champions du monde. Voilà, l'éternel Giroud, c'est peut-être pas la peine d'y revenir parce qu'il joue peu, mais quand il joue à Chelsea, apparemment, il fait l'affaire et ils l'ont gardé et on verra, je dirais, après le match. Mais je pense à Antoine Griezmann et ses rares titularisations quand même du côté du Barça, et on sait qu'il a fait une saison compliquée, même si quand il revenait en bleu, et donc il avait marqué un début contre l'Albanie, donc on a l'impression que dans l'équipe de France, il est bien, ou encore, et c'est pour ça que je me tourne vers vous, certain Lucas Hernandez. Voilà, Lucas Hernandez, alors lui, il est parti au Bayern depuis la Coupe du Monde, après l'Atlético, il a été malheureusement beaucoup blessé, et il a très peu joué.
Il a été longtemps absent pour une blessure, de longue durée, d'entrée. C'est-à-dire que
ils l'ont acheté blessé.
Et voilà, il était en plus qu'en pointillé au départ. Il était en observateur et c'est pas forcément la meilleure façon de s'intégrer quand on peut pas montrer ce qu'on sait faire, etc. à ses coéquipiers. Dans un club comme le Bayern, il y en a quelques autres aussi, mais où c'est très dense. Et Lucas Hernandez n'a pas pu. Je ne dis pas qu'il ne peut pas, bien sûr. Je dis qu'il n'a pas pu, tout au long de cette saison, parce qu'elle s'est terminée quand même en Allemagne, démontrer quoi que ce soit. Il a joué par-ci, par-là un petit moment. Bon, on a vu qu'il avait toujours ses fondamentaux qu'on connaît en équipe de France, c'est-à-dire une forme de rugosité. Il s'impose dans les duels. Il est solide, il est costaud, etc. Mais on n'a pas de garantie quelconque sur tout au long d'un match, sur la possibilité de reproduire cette performance deux fois d'affilée. Donc lui, point d'interrogation, c'est peut-être là aussi le moment de le remettre dans le bain et de le faire jouer pour tester ça, justement.
C'est sans doute pour ça que Didier Deschamps l'a convoqué. Sur Antoine Griezmann, il y a des inquiétudes pour vous, Gilles ?
Non, parce que c'est un peu comme Giroud. Vous avez raison pour moi d'évoquer ces deux noms, parce que pour eux, à des moments différents de leur carrière, avant et souvent pour Giroud, et là pour Griezmann, le déficit de jeu en club, le déficit de résultats, le déficit de performance a été comblé en équipe de France. Mmh. Et Deschamps a ses fidélités, il sait très bien qu'il peut compter sur eux. Donc je pense que Griezmann, dans un 3-5-2 à son vrai poste, si tant est qu'il a un vrai poste, mais son poste de prédilection, eh bien il risque de faire un gros match et peut-être de montrer à Barcelone qu'il a été sous-exploité. Donc Deschamps sait que c'est aussi des joueurs revanchards, et c'est pour ça aussi qu'il les appelle.
Sur ces cadres qui posent question, Rémi, qu'est-ce que vous diriez ?
J'ai pas l'optimisme à outrance que Gilles semble afficher, parce que déjà je dis que concernant Hernandez, c'est un échec total, dans la mesure où même au niveau de la Ligue des Champions, quand on a quand même vu que Kimmich, qui était au milieu du terrain...
Non, mais il est en concurrence, ça veut pas dire qu'il est plus performant.
Non. Vous savez quand même que pour une finale ou pour une compétition de cette envergure, alors qu'on avait bien espoir qu'il puisse venir, et quand j'ai vu par exemple la Bundesliga,
il a joué,
effectivement,
48 minutes,
il n'a pas. C'était en demi-finale où il est entré vers la fin, et puis voilà, en finale, il a encore été remis au banc. Donc, pour moi, il n'est pas bon. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant pour moi, c'est Griezmann. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Mais j'ai vu comment est-ce qu'on a eu de la peine. Certes, on va me dire qu'il a beaucoup joué sur un côté à Barça, mais même quand il a été essayé et quand il a été un peu repositionné, ça ne donnait pas. Donc, un joueur qui n'a pas véritablement...
Est-ce que c'est pas aussi psychologique, tout ce qui se passe au Barça autour de Griezmann, Rémi?
Ça pèse lourd quand même.
Ah oui, ça pèse lourd parce que effectivement, moi je vous avais dit ici que Griezmann partait gâcher sa carrière au Barça parce j'avais dit que même des gars comme Zlatan aux côtés de Messi n'avaient pas réussi à briller aussi que ça.
Si on finit par le mettre à son poste de prédilection après l'avoir un peu...
Oui, sauf que le Barça, malheureusement... Cramé. Le Barça est habitué et ne va pas abandonner cela, même si c'est Coman qui arrive au 4-3-3. Donc, pour moi, jusqu'à présent, la situation d'Antoine Griezmann risque de s'empirer parce que, justement, c'est quelqu'un qui joue en deuxième attaquant. Or, certes, aujourd'hui, Didier Deschamps est obligé de le repositionner derrière Giroud pour qu'il puisse bénéficier des deuxièmes ballons. Mais quand il va repartir encore au Barça et de toutes les façons, quand il va faire quelques gâchis, parce que, rappelez-vous quand même que, il n'y a pas très longtemps, Didier Deschamps, et d'ailleurs tout le peuple français était en train de dire qu'il était en sous-régime, et on le plaçait d'ailleurs au banc avant qu'il ne puisse rebondir. Si jamais la situation perdure, est-ce que ce Griezmann-là aura encore confiance en lui-même? Voilà la vraie question.
C'est pour ça qu'on l'attend peut-être beaucoup sous le maillot des Bleus, Gilles.
Mais oui, parce que c'est vraiment compliqué pour lui quand même, Rémi. Il traverse une saison. Il est barré, un peu borduré par Messi. Que Man lui confie les clés du camion, ça nous ramène à Messi, mais c'est de l'actu. Il lui confie. Alors, tu joueras à ton poste de prédilection, quel numéro tu veux, tu vas être le leader. Messi s'en va. Une semaine après,
il revient.
Messi revient. Pour Griezmann, c'est quand même compliqué à gérer tout ça.
Hier soir, il a déclaré qu'il voulait tous que Messi reste.
Oui, est-ce que vous imaginez qu'il puisse déclarer le contraire? Je veux que Messi parte et que le lendemain, Messi reste. Alors là, c'est fini pour lui. Donc, pour le pauvre Griezmann, c'est quand même une année super compliquée. Donc moi, je pense que c'est des bouffées d'air l'équipe de France, que c'est là où il s'exprime le mieux et que ça va lui servir. Après, attention, sur les 5 derniers matchs en Suède, les Bleus n'ont gagné qu'une fois. C'est un adversaire très compliqué. Ça va pas être évident de s'imposer en Suède.
Juste avant qu'on parle de la Suède, j'avais une question pour vous, David Lortolari. Est-ce que l'équipe de France, elle peut se permettre des tests? On sait que, alors on y reviendra, mais Allemagne et Espagne, par exemple, se sont permis hier. Mm-hmm. Mais quand on est champion du monde, on a un statut quand même sur les épaules, on a un statut à défendre, à porter. Est-ce que Deschamps peut se permettre un peu de faire, je dirais, des tests n'importe comment?
Joachim Löw, avec la sélection allemande, en a fait 107 depuis qu'il est arrivé. Il a intégré 107 nouveaux joueurs depuis 2008. Et ça n'a conduit à l'échec qu'une fois dans tous les tournois qu'il a disputés. Donc je serais plutôt tenté de dire, Annie, oui, il faut donner leur chance à des joueurs. Ça peut être une explosion. Bon, je vais pas prendre un exemple. Je vais prendre un exemple qui va vous faire rire. Mais Bafé Gomis en équipe de France, il arrive et marque deux buts tout de suite. Et il y en a d'autres, des exemples comme ça. Certains qu'on a oubliés, d'autres qui se sont imposés. À mon avis, il faut quand même faire ces tests-là parce que ça ne va pas disparaître en 6 mois dans l'esprit des adversaires. Oui, certes. Ça ne va pas disparaître en 6 mois dans l'esprit des adversaires, le statut de l'équipe de France et ce titre de championne du monde. C'est pas parce que Deschamps va essayer des choses, qu'un match va peut-être être un peu brouillon, que les adversaires futurs vont oublier ce qu'a fait l'équipe de France les mois passés.
Rémi, c'est lourd un statut de champion du monde, voire un statut de champion d'Afrique.
Champion du monde, ça c'est le passé. Maintenant,
le passé. Jusqu'en 2022, ils sont champions du monde.
C'est le passé du moment où vous l'avez déjà remporté dans la mesure.
Vous êtes encore champion d'Afrique, je crois.
Oh non.
Non.
non. C'est l'Algérie. Enfin,
exactement. Voilà, depuis l'année dernière. Mais voilà, vous l'avez été assez, 2010, 6 mois de plus, 2010, hein, c'est ça?
Oui, donc c'est comme ça. Donc après cela, maintenant, ce qui est en train de se passer, comme justement on le dit, les équipes, ça change trop vite. On a vu l'Allemagne venir, on croyait que l'Allemagne était hyper forte et tout ça. Et on a quand même vu comment est-ce que l'Allemagne est passée à côté avant de se régénérer actuellement là. Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut avoir un statut et par la suite on passe à côté. Justement parce que tout le monde va vous attendre. Il faut quand même se dire que la France, quand elle devient championne du monde, laissez la balle aux adversaires. C'est-à-dire que... En général, la possession des balles de la France ne dépassait pas 40%. Aujourd'hui, champion du monde, la France ne va pas laisser la balle aux adversaires. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes en train de revoir un autre système tactique, un autre schéma tactique, à savoir que ce que Didier Deschamps est en train de vouloir expérimenter. La preuve qu'on est reparti sur de nouvelles bases.
Bon alors, en attendant que le Cameroun reprenne sur son sol, si tant est que la CAN y est bien organisée prochainement, Gilles.
Vous êtes obligé de changer. Rémi a l'air
les
de dire.
Statuts. Les statuts.
Mais oui, Rémi a l'air de dire les équipes nationales, on change trop vite, les statuts sont remis en question,
ouais.
et les statuts écrits différemment,
ouais.
Déboulonnés. Mais le foot change d'une manière incroyable. Aujourd'hui, on est star à 17 ans. Il n'y avait pas ça avant, il y avait des exceptions.
Vous qui faites de star à 17 ans avec Kamavinga.
Excusez-moi, il est en équipe nationale. C'est pas moi qui l'ai appelé. La relève de Messi à Barcelone, 17 ans. Donc,
Kylian Mbappé aussi.
Kylian Mbappé, star très jeune. Donc aujourd'hui, vous êtes poussé dehors.
Pelé, même à l'époque, Pelé, il marque deux buts à la Coupe du Monde contre la Suède.
Ça change le poids d'un titre.
Mais en fait, il n'y a quasiment plus de poids du titre parce que le renouvellement est permanent. Si vous ressentez la moindre pression, vous êtes poussé dehors par la génération suivante, qui est une génération spontanée maintenant.
D'autant que là, entre la Coupe du Monde et l'Euro, on pense évidemment à 98 et 2000, et bien là, ça sera 2018 et 2021,
oui,
donc il y a plus de temps.
Et puis les successions de victoires Euro-Coupe du Monde ou Coupe du Monde Euro, il y en a quand même eu très peu, hein, l'Allemagne de l'Ouest, la France, l'Espagne, et c'est tout, on n'en compte pas énormément, donc c'est très difficile à réaliser.
La Suède, je me tourne vers vous messieurs maintenant pour évoquer cet adversaire. C'est un adversaire, Gilles il le disait, difficile. Et moi j'ai regardé les statistiques comme vous sûrement, Rémi. Mais effectivement, c'est une équipe de France, quand elle va à Stockholm, ça se passe moins bien que dans le temps, le temps d'avant ou le temps récent. Les Français ont perdu 2 des 4 derniers matchs contre les Suédois. Les Français, les Bleus, n'ont gagné qu'un seul des 5 derniers matchs contre cette équipe. Et surtout, la Suède est invaincue lors des 8 derniers matchs contre la France. Alors là, ça va être compliqué.
Oui, il y a un problème quand on affronte la Suède, c'est que je crains que une virtuosité, un geste de talent ponctuel comme ça au cours du match ne suffise pas. Il va falloir faire les efforts, il va falloir développer du collectif pour la mettre en difficulté, parce que quand même les vieux clichés qui consistent à penser que cette équipe est un peu sinon rustre, du moins un petit peu figée dans sa tactique, etc., restent assez réels, quoi. C'est pas non plus une équipe de...
Elle a même des joueurs maintenant, des Suédois, qu'on voit dans d'autres équipes et notamment en Allemagne.
Alors ça oui, Emil Forsberg, je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple, parce que c'est à lui que je pense en premier, parce qu'il a cette saison, il a été un peu absent, il n'a pas pu montrer ses qualités techniques, mais en équipe nationale, on va lui faire pleinement confiance. Et c'est une équipe qui est mature, qui est perpétuellement mature, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ça nécessite, pour la battre, de faire des efforts plus que, à mon sens, plus qu'un petit exploit individuel au cours du match.
Gilles.
Et d'ailleurs, j'écoutais Didier Deschamps là dans sa conférence de presse juste avant de venir là. Il relevait le niveau, le côté très expérimenté de cette équipe suédoise, et il reconnaissait les difficultés de la France face à eux. Il la situait parmi les meilleures nations européennes quand même. Donc c'est un adversaire de qualité pour une équipe de France qui est dans un contexte un peu lourd, hein. Mandanda évincé à cause testé positif, et Deschamps disait lui-même, c'est pas facile de se préparer pour un match comme ça. Donc c'est
vraiment... Mandanda qui allait être gardien de but titulaire.
Non mais c'est Mandanda,
c'est dans le contexte.
Dans un contexte de l'équipe qui est lourd. Mandanda, c'est un grand frère.
Le gardien, la France n'allait pas jouer avec deux gardiens de but.
Laissez-nous
ça.
Mandanda,
vous laissez le gardien titulaire et vous nous parlez de...
Je vous dis qu'il est testé positif, il doit partir.
C'est dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Mais Rémi, c'est vrai que la Suède, c'est eux qui écartent l'Italie de la Coupe du Monde 2018. Hein. On se souvient que les Italiens ne voulaient pas la Coupe du Monde. Et c'est la Suède qui les évince. Et c'est quand même une équipe qui s'est drôlement régénérée, alors qu'elle a perdu son géant, Zlatan Ibrahimovic, déjà depuis quelque temps.
Ah oui, parce que justement, c'était ça le problème. C'est-à-dire que contrairement peut-être à Cristiano Ronaldo, qui, quand il est avec le Portugal, eh bien, il porte le Portugal. Oui. Malheureusement, Zlatan, c'est à peu près un autre Messi, veuillez m'excuser. C'est-à-dire qu'il ne porte pas souvent l'équipe nationale, comme on peut le croire. La preuve, c'est que, pour une fois, on a vu cette Suède-là, d'ailleurs, atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. Mine de rien, cette Suède, d'ailleurs, là, elle avait déjà même battu aussi des fortes formations. Donc, aujourd'hui, je crois que la Suède, lorsqu'on essaie de la voir, c'est un bloc. Et en football, ce n'est pas une individualité. Lorsque on joue avec Zlatan, tout allait vers Zlatan. C'était les mains qui attiraient presque tout. Aujourd'hui, quand vous avez l'équipe de la Suède, vous sentez quand même des gens qui ont une certaine envie et surtout une belle organisation tactique. Donc pour moi, Zlatan dérangeait beaucoup l'équipe de Suède. Et justement, comme on dit, un seul bras ne monte pas à l'arbre, tout comme aussi une seule abeille ne fait pas de miel.
Hier soir, en tout cas, il y a eu une dizaine de matchs dans diverses ligues hein, de cette Ligue des Nations qui se décompose en plusieurs groupes. Et en Ligue A, justement, eh bien, on a eu un Allemagne-Espagne. Les champions du monde, respectivement, de 2014 et 2010 étaient face à face. Et la rencontre s'est achevée ainsi.
On commence à siffler sur le bon allemand, mais monsieur Orsato prend plaisir à ses dernières secondes. Ferran Torres, le dernier centre. Oh, il le lève bien, ce ballon. Et ce ballon, pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu pour l'égalisation. Oh, incroyable. José Gaya, le latéral gauche, qui est là, qui traîne dans la surface de réparation et qui vient égaliser au-delà du temps additionnel à la 96e minute.
Est-ce qu'il y avait hors-jeu ou pas sur ce... On entend le commentateur de un de nos confrères qui dit tout de suite qu'il n'y a pas hors-jeu. Mais c'est vrai que y a eu un doute. Et même, puisque la fin de la partie est sifflée immédiatement, on voit tous les joueurs qui vont, après les Allemands, parler avec l'arbitre. Il y avait hors-jeu ou pas?
La scène est la suivante. Gossens, le défenseur de l'Atalanta, est à la suite d'un tacle, est en dehors du terrain, derrière la ligne de but, et semble ne pas faire action de jeu. Et en fait, le règlement est simple, c'est que tant que l'arbitre ne vous a pas demandé de sortir du terrain ou de revenir sur le terrain, vous faites action de jeu où que vous soyez. Donc là, il est en dehors du terrain, mais il couvre l'attaquant, et donc le défenseur plus le gardien, deux joueurs de l'équipe défenseuse ou en défense, et le joueur est en jeu. C'est étrange et c'est un peu injuste pour l'Allemagne parce qu'il était loin de l'action, mais il n'y a pas hors-jeu en tout cas.
Bah non, parce que sinon, alors vous faites exprès de sortir du terrain.
Oui, c'est pour ça, bien sûr.
Il y aurait des actes délibérés où vous fuyez, entre guillemets, pour sortir du jeu. Donc non, vous êtes sur le terrain, vous êtes dans votre équipe, vous faites partie du jeu.
Ce qui est intéressant, Gilles, c'est le joueur après coup a avoué avec une honnêteté, une franchise un peu ingénue, qu'il ne connaissait pas cette règle. C'est un peu embêtant.
En tout cas, est-ce que c'était, vous parlez d'un peu injuste pour l'Allemagne. L'Allemagne a fait match nul. Elle a perdu une victoire qu'elle avait. Alors, c'est vrai que le temps additionnel a un peu plus duré. C'était théoriquement 4 minutes, ça a été 6.
Oui.
Ils se sont relâchés un peu, les Allemands, dans ces deux dernières minutes supplémentaires.
Peut-être ont-ils un petit peu fléchi. Ça fait partie des explications sur le plan physique, parce que ça, c'est un peu le règlement qu'il faut savoir aussi pour cette compétition. On a droit qu'à 3 changements. Hein, c'est pas 5 comme on voit en ce moment dans le football après Covid ou post ou en plein Covid. Les arrêts de jeu ont été prolongés parce que je crois que c'est Mathias Ginter, il y avait eu un choc, il avait été soigné, donc ça c'est légitime de la part de l'arbitre. Après, ils se sentent sans doute un petit peu floués, même si le mot est trop fort, parce qu'ils ont montré beaucoup plus de choses, ils ont créé du jeu, ils étaient bien organisés et ils méritaient d'être devant au score. S'il y a une justice, effectivement, on pourrait considérer que l'Allemagne aurait dû gagner, mais... ça s'est joué dans les dernières secondes. C'est souvent dans le football.
En football, il n'y a pas de justice. Joachim Löw, d'ailleurs, s'est dit satisfait. Et il a dit que ses hommes n'étaient pas encore vraiment dans le rythme d'une
surtout
compétition.
Qu'il y avait des essais en plus.
Oui. Gilles.
Moi, j'ai bien aimé ce match, mais il y a un gros manque de réalisme de l'Allemagne. Oui. Alors, vous me direz, il y a aussi les arrêts décisifs de De Gea, si contesté, maintenu par son sélectionneur et qui a prouvé que, à 29 ans, il n'était pas fini et qu'en équipe nationale,
oui,
il
pouvait être. Un gardien à 29 ans.
Non, mais je veux dire, il était remis en question énormément
bien sûr.
Dans son club.
Oui.
Saison compliquée. Et là, il a fait de très gros arrêts. Et moi, j'ai bien aimé quand même cette jeune équipe espagnole. Beaucoup porté par un joueur que j'admire, qui est Thiago Alcantara, qui est le fils de Mazinho, le Brésilien, et le fils spirituel de Guardiola, qui l'avait suivi à Barcelone, fait venir au Bayern. Quel joueur fantastique.
Et le frère
joueur.
De Rafinha.
Le frère de Rafinha. Quel joueur, mais quelle technique, quelle importance stratégique pour son équipe, vraiment.
Votre commentaire sur ce match, Rémi, est-ce que finalement les Espagnols s'en sortent bien?
Ils s'en sortent mieux parce que je crois qu'ils ont bénéficié d'un mauvais coaching de Joachim Löw dans les 25 dernières minutes, parce qu'il faut quand même se dire que en faisant sortir Gundogan et surtout Sané, ça a un peu faibli le côté offensif, d'autant plus qu'il fait entrer deux défenseurs. Ouais. Là, quand même, quand vous vous mettez dans ce... Même quand vous voulez gérer, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que l'équipe d'Espagne nous a montré beaucoup de fébrilité défensive. Et là, quand, par exemple, vous voyez ce que Sané ou encore Werner, Timo Werner, pouvait faire, créer comme danger dans cette équipe d'Espagne, moi, cette équipe d'Espagne, même comme les gens sont en train de me dire que non, il y a beaucoup d'avenir parce qu'il y a de la jeunesse et tout ça et tout et tout. Moi, je dis, c'est quelque chose que j'ai quand même constaté que par derrière, ça ne va pas et ça ne va pas depuis très très longtemps. C'est-à-dire que depuis la Coupe du Monde 2010 et malheureusement, comme le dit un proverbe africain, quand la chienne a la queue coupée, tous les chiens montent.
Oui, alors je vais pas mentir en parlant de la jeunesse de cette équipe et du rajeunissement et notamment et bien de Ansu Fati, il a 17 ans et 308 jours hein, au moment où il est rentré sur le terrain, il n'était pas titulaire, le natif de Guinée-Bissau, mais il est déjà promu en sélection, le joueur de Barcelone, et écoutez son entraîneur Luis Enrique.
Ansu ha demostrado lo que todos ya
sabemos. Ansu Fati a démontré tout ce qu'on savait sur lui. C'est un joueur très spécial et différent des autres. Il faut prendre soin de lui, le protéger. Ce soir, il a démontré qu'il pouvait être un joueur très important pour nous. Je suis sûr qu'Ansu va devenir un élément très important pour l'équipe nationale.
Ansu Fati, déjà on l'apprécie avec Barcelone, et là déjà très présent avec le maillot de la Roja.
Comme Camavinga chez les Bleus, voilà. La relève est déjà là. Alors lui, il a failli marquer, ça a failli être un immense bonheur pour lui, et puis finalement non. Mais
oui, parce qu'il a marqué, le but est refusé pour hors jeu.
Absolument, vous faites bien de le préciser.
Une faute de Sergio Ramos aussi.
Oui, mais c'est vraiment la relève, c'est l'affirmation du talent pur. Ce sera un joueur essentiel. Et le sélectionneur Luis Enrique a tout à fait raison d'en faire un homme de base de son renouvellement, parce qu'il faut renouveler vraiment. Il y a plein de choses. Hein. Il y a le Covid, il y a aussi la particularité de ces matchs à huis clos qui, à mon avis, bouleverseront des hiérarchies d'équipes nationales largement supportées qui ne le seront plus. On peut avoir d'immenses surprises. Donc moi, je trouve que je suis pas d'accord avec Rémi. Je trouve que l'Espagne se reconstruit d'une manière extrêmement cohérente avec un sélectionneur qui a été trahi par son adjoint, qui a repris les Rennes, et avec cette jeunesse-là, ils peuvent aller très loin. Oui, il y a quelques fébrilités, mais qui n'en a pas?
Ah non, je vais te dire une chose. Pourquoi est-ce que je dis que je ne trouve pas de la cohérence dedans? Parce que cette équipe d'Espagne, tout le monde l'a vu à l'Euro Espoir. Tout le monde a dit, elle jouait bien. Et on avait un grand espoir sur des gens plutôt comme Asensio, que je ne le retrouve pas là. Ou bien les Ceballos, ou comme les Ceballos et consorts. C'est-à-dire que toutes nos statues qu'on nous présentait comme l'avenir de l'Espagne n'est pas là. Donc chaque fois, on nous revient avec les mêmes. Et moi, je vous dis, j'ai vu l'animation offensive de cette équipe, elle n'était pas séduisante, et surtout lorsque sur le plan défensif ça ne va pas. Les gens oublient toujours.
Les titulaires n'étaient pas là en défense.
C'est trop cérébral pour vous, cette animation. Parce qu'il n'y a pas d'attaquant type et ça vous perturbe. Mais c'est ça peut-être l'Espagne du futur et l'Espagne d'hier aussi avec laquelle elle a gagné. C'est pas de numéro 9 prototypé comme vous le voulez, un grand balèze qui marque des buts. C'est très raffiné.
Tout de suite. Oui, mais cette Espagne qui gagnait la Coupe du Monde, comme je le dis, ou bien l'Euro, c'est cette Espagne qui, je vous le dis, n'encaissait pas de buts. Rappelez-vous, en 2010, en Afrique du Sud, c'est 2 buts encaissés jusqu'à la finale. Aujourd'hui, quand chaque action de l'Espagne, pourquoi? Parce qu'on ne voit même pas un véritable numéro 6. Parce que bon, Busquets, vous allez me dire tout ce que vous dites aujourd'hui, mais il n'y a pas un récupérateur, il n'y a pas un bon relayeur. C'est une équipe qui manque de jouer au milieu de terrain.
Ben on y reviendra à cette équipe d'Espagne après son deuxième match. On verra de quoi elle est capable. En tout cas, ce soir, il y aura un Pays-Bas-Pologne ou un Italie-Bosnie. Demain soir, Portugal-Croatie, sans peut-être Cristiano Ronaldo blessé à un pied. Puis si vous avez envie de regarder beaucoup de matchs, il y a aussi Lituanie-Kazakhstan, Gibraltar-Saint-Marin ou Chypre-Monténégro. Ils ont tous mis ensemble.
Voilà le match qu'il me faut regarder.
Mais la Croatie est le prochain adversaire des Français.
Oui, bien sûr. Ça sera. On est dans le même groupe avec le Portugal. Et ça sera intéressant de le voir. On termine en parlant de la pandémie mondiale.
Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps, virus qui tue.
Le coronavirus n'a donc aucune pitié. Ça bat aussi sur de jeunes athlètes, a priori hors des groupes de personnes dites à risque. Il y a donc l'affaire Mandanda, Mandanda qui a dû quitter les Bleus, mais qui apparemment, histoire de règlement, jouera peut-être en Ligue 1. En tout cas, l'OM a fermé aujourd'hui son centre de formation parce que le virus, évidemment, circule beaucoup en France et notamment à Marseille. Alors le pire, évidemment, c'est le Paris Saint-Germain. 6 joueurs sur le flanc pour l'instant, et c'est peut-être pas fini. Di Maria, Paredes, Neymar, auxquels se sont ajoutés hier soir Marquinhos, le capitaine, Icardi et Navas. Tous rentrés, on le sait déjà beaucoup, d'un séjour de vacances à Ibiza où ils auraient supposément attrapé ce virus. En tout cas, les matchs à venir, Lens et puis Marseille, seront-ils pour autant reportés? Alors, ce qui s'est passé hier soir peut-être, Gilles, c'est que la LFP, qui au départ recommandait le report, et on se souvient de OM Saint-Etienne qui a été reporté parce qu'il y avait au moins 3 joueurs blessés, là, on porte ce nombre à 10, puisque si 20 personnes sur 30 de l'effectif sont disponibles, on jouera le match.
Entre guillemets, c'est un allègement du protocole.
Oui.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ces fameux quelques joueurs sur 8 jours glissants. Maintenant, il en faudrait beaucoup plus pour qu'un match soit reporté. Alors, c'est une manière d'éviter un calendrier impossible à tenir. Moi, ça me choque. Parce que au nom du calendrier, au nom du respect de, on jouera tant de matchs en mars, puis en avril, il y a la Ligue des Champions, etc. Je trouve qu'on met en danger la santé des joueurs. Je trouve que le PSG devient un cluster. Donc un cluster, il faut pas qu'ils soient en contact avec l'équipe de Lens, avec d'autres gens. Il faut les laisser entre eux et reporter les matchs. Donc je suis contre cet allègement du protocole que le football a réclamé et sans doute obtenu, mais qui, moi, me paraît dangereux.
Alors, pour l'instant, ça a été négocié au sein de la LFP.
Absolument,
effectivement, la Ligue qui organise le championnat. Mais, effectivement, il y a encore les autorités sanitaires françaises qui doivent...
Ce sera au niveau du gouvernement
qui doivent en décider. Comment ça vous paraît, David Lortolari?
C'est très paradoxal. C'est quand même curieux que la France a décidé d'arrêter les compétitions en mars, avril, mai, par prudence, par sécurité. Et puis là, bon, alors on reprend. Et puis c'est la France qui à l'inverse, prend la vague de plein fouet avec le Paris Saint-Germain, avec d'autres peut-être, avec Marseille, etc. Je suis un peu
surpris.
Ça tangue. C'est pas très cohérent. Après, je ne veux pas jouer les pères fouettards, mais dans une saison comme cela, qui va nous emmener jusqu'à juillet avec l'Euro 2021. Pardon, je vais peut-être être un peu excessif, mais ne pas maîtriser son effectif, son groupe, et laisser partir des gens tout autour du monde en vacances, je trouve ça un peu bizarre.
Nous, les Français, on est tous restés en France.
mais David, vous pouvez pas empêcher les gens sont en vacances, les frontières sont pas fermées, ils sont pas dans l'illégalité.
Alors il faut être raisonnable.
Assigner les gens à résidence. Mais c'est quoi être raisonnable? C'est jusqu'où on est raisonnable? Alors on a le droit d'aller là et pas là. Excusez-moi David, je vous aime beaucoup, mais vous êtes pas encore à la tête des autorités de santé françaises.
Je serais d'accord avec David parce que voilà. Mais tout le monde se plaignait ici que les joueurs étaient en vacances en France. Les autres étaient en train de jouer. Les joueurs français, ils étaient en vacances. Nous tous, nous étions en vacances obligatoires. Et d'ailleurs, Neymar était même parti. Donc, beaucoup d'autres joueurs étaient partis chez eux et tout et tout. Et en ce temps, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, et ils jouaient. Bon, subitement, vous perdez une finale de Ligue des Champions. Ceux qui ont gagné, le Bayern, ils ne vont pas en vacances. Ils rentrent chez eux. Ils croisent les bras. Neymar qui venait de pleurer. Il dit, allons danser à Ibiza. Et on revient avec le corona.
Alors, Rémi,
et on dit non.
Rémi, attendez. Premièrement, on n'est pas sûr que ce soit Ibiza qui l'ait attrapé.
Oui,
après,
mais une chose est sûre.
On n'est pas sûr.
Il y a eu un laisser-aller.
Mais Rémi, on ne peut pas quand même enfermer des joueurs jusqu'au mois de juillet prochain.
Annie, je t'explique juste une seconde. L'année dernière, Neymar a fait combien? Presque 10 mois sans venir en France. Il était là-bas chez lui. Mais parce qu'on disait qu'il était blessé. Mais maintenant, le même Neymar revient, c'est-à-dire que quand il y a le Covid, il est chez lui. Et à peine on veut recommencer, au lieu de se concentrer, vous venez de perdre une Ligue des Champions. Alors qu'il y a, on dit bien que le Covid circule un peu partout, la qualité, les photos qui ont été prises.
Mais vous dites n'importe quoi, Rémi, excusez-moi.
Les photos qui ont été prises à Ibiza, attendez.
On pense que le virus se serait potentiellement propagé avant le départ à Ibiza, au moment où il y a une fête d'anniversaire de l'enfant Neymar chez lui, et que peut-être là, ça circulait dans un contexte français. Donc c'est peut-être pas du tout le
on
départ à Ibiza,
sûr,
c'est le fait que les joueurs soient ensemble. Mais excusez-moi, ils sont ensemble lors d'une réception. réception, ils sont aussi ensemble quand ils jouent au foot ou dans le vestiaire. Donc n'accusez pas des gens qui sont partis en vacances à Ibiza, ça se trouve ils étaient déjà contaminés, avaient déjà pour certains les symptômes
trop de
avant.
Vacances. Trop
mais
de
ça
vacances.
N'a rien à voir.
Une équipe
pour,
toujours
pour
en
vous,
vacances.
Pour vous peut-être, mais pour tout, les joueurs, tout, ils ont le droit de partir.
Une équipe toujours en vacances.
Allez Rémi, on vous mettra pas d'accord et on continue puisque nous abordons la dernière partie de ce Café des Sports et c'est notre session carton bien sûr.
Carton jaune.
Dieu un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Allez Gilles, à vous la main pour donner la couleur de votre carton et à qui vous attribuez un carton aujourd'hui.
Carton vert, c'est rare pour moi. À Rui Pinto, c'est le hacker qui était à l'origine des Football Leaks et qui, plutôt que d'être considéré comme un héros qui a dévoilé des malversations, est jugé pour
dans le monde du football.
Oui, dans le monde du football et il a collaboré avec la justice. Ça a permis de mettre à jour, non pas d'élucider, il n'y a pas d'issue judiciaire, mais de mettre à jour des malversations sur des transferts de l'argent détourné. Et plutôt que de le féliciter, eh bien, il est jugé à Lisbonne pour des délits informatiques et une tentative d'extorsion de fonds. Il risque de 2 à 10 ans de prison. Il a déjà fait de la préventive. Il était assigné à résidence. Pour moi, c'est un héros. Donc les héros, on les juge pas, on les félicite. Donc carton vert.
On y reviendra dans Radio Foot International d'ailleurs pour vous expliquer en quoi ce procès est important. David Lortolari.
Déjà, tout à fait d'accord avec Gilles et merci d'avoir fait ce développement. Non, d'un point de vue journalistique, c'est aussi bien vert. D'entendre ça et on est d'accord.
On a appris plein de choses avec ces photos.
Mais c'est ça surtout, oui. C'est ça qui est important, c'est ça le cœur du... Oui. Voilà, ça c'est une chose. Alors je vais parler moi de quelque chose qui est peut-être moins plus secondaire. Je voudrais mettre un carton jaune dans le contexte actuel avec la situation sanitaire compliquée, avec la difficulté peut-être de s'entretenir parfaitement physiquement, la difficulté d'enchaîner les matchs. Je ne comprends pas ce qui s'est passé dans le cadre de cette Ligue des Nations hier soir et qui va perdurer pour les prochains matchs. Pourquoi se limite-t-on à 3 remplacements pour une équipe ? C'est trop peu. On a constaté, les acteurs du football l'ont dit, que 5 changements dans la situation actuelle, c'était très bien, que ça donnait un peu de bouffée d'air pour peut-être pour maîtriser des situations un peu nouvelles. Et là, on revient à 3 changements. C'est insuffisant, c'est incompréhensible. C'est presque aller à contre-courant de la situation. Ça ne me plaît pas du tout.
Gilles, Rémi. Une minute.
El Capo del Hombre de ma page Facebook Gaming en officiel donne donc un carton jaune à l'église catalane qui, bien sûr, ce dimanche, ce sera l'évangile du dimanche, Bayern 8, verset 2, Messi s'enfuit, Messi revient. Comme le dit un proverbe africain, on ne reprend pas la salive qu'on a déjà crachée par terre.
C'est un peu énigmatique votre carton là, Rémi. C'est quoi ça? Bon. Comprenne qui pourra avec Rémi.
C'est pas moi qui ai donné.
Il a été marqué par le
but. Oui, mais c'est
Rémi,
vous qui l'avez choisi quand même.
Non. Ouais. Je vous reprends l'évangile. Évangile Bayern 8, verset 2. Messi s'enfuit, Messi revient. Et puis, je conclue avec le proverbe. On ne ramasse pas une salive qu'on a déjà crachée par terre. C'est-à-dire que c'est vous ne pouvez pas dire je m'en vais, je reviens. C'est comme ça.
C'est le prédicateur Ngono.
Voilà. On n'avait pas encore la réponse de ce Keda. C'est incroyable, Rémi. Puisque oui. Messi, hein, on en a parlé en début d'émission, reste à Barcelone. Le carton de Radio Foot International est un carton vert à l'OM et à son soutien au Liban et aux Libanais à travers leur supporter Cyril Canan, qui a disparu dans l'explosion du 4 août sur le port, dont on a parlé évidemment sur RFI, qui avait près de 200 morts. Cyril Canan appartenait au fan club OM Nation Beyrouth, fondé par Karim Laoud. Un hommage est rendu à ses supporters et un lien est établi entre l'OM et Beyrouth. Et d'ailleurs, le club de Marseille avait floqué ses maillots du drapeau libanais le 9 août contre lors du match contre Nîmes. Voilà, bravo l'OM. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, messieurs.
Merci, Ali.
D'avoir participé à ce Café des Sports hebdomadaire. Merci aussi à Laurent Salerno qui était à la réalisation radio, on va dire. Soal Kedir est élu à la réalisation vidéo. Et on vous dit évidemment à la semaine prochaine avec d'autres nouvelles et notamment sans doute d'autres explications sur Messi Sequeda. We'll be right back.